4, versets 1 à 30. Rassurez-vous, j'ai été gentil. Hein. Jean, chapitre 4, verset 1er. Jean, chapitre 4, verset 1er. Avant de lire, on va demander la grâce de Dieu ensemble, si vous voulez. Eh bien, je vais profiter, comme il y a des frères que je connais depuis très longtemps. Patrick, est-ce que tu veux bien rendre grâce au Seigneur pour sa parole? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Il y a donc quatre Tourquenois, je crois. Mais je connais pas bien l'assemblée. Il y a d'autres visiteurs parmi nous, d'autres assemblées ou en vacances, non? Parce que je vois des nouveaux. Oui, vous êtes de où?
De la Seine-sur-Mer.
De la Seine-sur-Mer. C'est pas très très loin. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Amen. D'autres visiteurs, non? C'est une bonne visite touristique, notre assemblée. Ah mais si, il y a quand même, c'est pas vraiment des visiteurs, c'est la famille. Le frère et la sœur de Anne et son beau-frère. Que Dieu vous bénisse. De quelle assemblée déjà? De Vienne. Que le Seigneur bénisse son œuvre là-bas aussi. Amen. Alors lisons Jean chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, comme il y a de l'hostilité, de la jalousie, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif ?» Me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent, soit en esprit ou par l'esprit avec un grand E, et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est exceptionnel, c'est rare que Jésus a clairement dit qu'il était le Messie. Cette Samaritaine a une révélation exceptionnelle du Seigneur. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Alors ce passage nous montre tout d'abord que Jésus rompt la distance. Il y avait inimitié, opposition entre les Juifs et les Samaritains. Cela remontait à loin du temps où Israël du Nord avait été déporté et remplacé par toutes sortes de populations non-juives païennes. Et depuis des siècles, il y avait sur le même territoire, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, sur le même territoire, des Juifs et des non-Juifs, et il y avait guerre entre eux, peut-être pas guerre armée, mais en tout cas dans les cœurs. Jésus est venu pour détruire le mur d'inimitié. Amen. Il rompt la distance. Il va vers la Samaritaine, ce qu'aucun Juif ne faisait. Parce que Jésus n'est pas venu pour rejeter les non-Juifs, mais il est venu pour sauver le monde entier. D'ailleurs, la fin de ce chapitre, et c'est volontaire que Jean le dit, affirme, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est la conclusion du chapitre et la leçon principale de ce chapitre. Jésus est le sauveur du monde. Il ne l'est pas des Juifs seulement, mais du monde entier. Il a détruit le mur d'inimitié, le mur qui nous séparait. Souvent, quand nous prions, nous remercions le Seigneur de dire « Tu as déparé, tu as démoli le mur qui nous séparait de toi ». Mais dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, ce mur de séparation, ce n'est pas entre Dieu et nous. C'est un mur de séparation entre juifs et non-juifs. Et dans le temple, il y avait différentes parties séparées par des murs. Et il y avait des parties pour les juifs qui étaient plus proches du sanctuaire, qui symbolisaient là où Dieu était. Les juifs étaient plus près de Dieu par des murs qui séparaient des non-juifs. C'était ce qu'on appelait leur parvis, le parvis des païens. Et ce mur, c'est les séparer des juifs et les éloigner de la présence de Dieu. Mais Jésus est venu détruire ce mur de séparation pour que nous soyons tous enfants de Dieu et que nous ayons accès à la présence même du Seigneur. Dieu soit béni. Jésus rompt la distance. On ne peut pas concevoir, enfin je dis cela oui et non, un chrétien ne doit pas être raciste. Quand je dis je ne peux pas concevoir, il se peut que même quand on est chrétien, l'on a encore des choses à régler. Je me souviendrai toujours de cet homme de Dieu, Charles Gisquet, qui a été mon professeur à l'école biblique, et il nous racontait une fois encore, en pleurant en cours, qu'après avoir connu la guerre, il s'était retrouvé en Allemagne dans une réunion avec des chrétiens allemands. Et lui, il pensait, il était converti, il était pasteur, homme de Dieu, c'était du passé tout cela. Et puis, il s'assoit et puis les Allemands commencent à chanter. Ça lui rappelait d'autres chants allemands, des chants de guerre. Et là, le frère qui sent dans son cœur des mauvaises choses qui reviennent, des mauvais souvenirs et des mauvais sentiments. Et il devait prêcher. Il a eu le courage, en montant sur l'estrade, de dire avant tout, je vous demande pardon. Parce qu'en vous entendant chanter, cela m'a rappelé. Et je vous demande pardon dans le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur réunit les hommes, français, allemands, arabes, africains. Dieu soit béni, Jésus est le sauveur du monde. Merci Seigneur. Alors apprenons comme le Seigneur à aller vers les autres. Jésus mangeait et buvait avec les pécheurs. On le lui a reproché. Mais il allait là où peut-être vous ne seriez pas allé. Vous auriez eu des réticences. Nous aimons bien nous inviter entre nous. Mais pourtant, Jésus nous a demandé d'inviter ceux qui ne pourraient pas nous rendre l'appareil. Eh oui. Et il allait là où les maisons voulaient bien ouvrir leurs portes. La sainteté ne doit pas créer une distance même avec les incroyants. Il n'y avait pas plus saint que Jésus. Et pourtant, il a quitté son ciel de gloire pour venir s'immerger auprès des hommes. Son baptême d'eau allait figurer tout ce que serait sa vie. Lui, le Fils de Dieu, vient dans l'eau du Jourdain où tous les pécheurs veulent y trouver le pardon. Et lui, le Fils de Dieu, l'homme, le prophète est gêné. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Je ne peux pas te baptiser, ce n'est pas possible. Laisse faire. Il faut accomplir ce qui est juste. Parce que dès le départ, il nous a montré là, par cet acte fort, qu'il était venu pour être parmi les hommes, dans l'eau des hommes, dans l'eau de tous, pour s'immerger parmi les perdus. Dieu soit béni de cette attitude du Seigneur. Alors, allez vers tous. Allez prêcher au monde entier la bonne parole. Amen. Demandez au Seigneur de vous ouvrir des portes. Gloire à Dieu. Sans esprit de parti. Peut-être, frère, sœur, vous avez un voisin difficile. Peut-être, vous avez des voisins étrangers. Et vous trouvez qu'il manque d'éducation ou de ceci ou de cela. Aimez-les. Priez pour eux. Témoignez-leur du Seigneur. Amen. Jésus a rompu la distance. Peut-être personne ne les côtoie. Mais c'est ça notre témoignage à nous, chrétiens. On va parler avec ceux qui sont mis au banc des accusés. Dans le quartier, personne ne parlera avec eux, sauf nous. Alléluia. Et nous n'hésiterons pas à parler de la bonne nouvelle. Dieu soit béni. Jésus est venu détruire le mur de séparation entre juifs et non-juifs. Ensuite, Jésus discute. Il ne prêche pas seulement, il discute. Il a prêché aux foules, mais l'évangile selon Jean a cette caractéristique, mais les autres évangiles nous le montrent également. Jésus a souvent eu des entretiens privés et particuliers, dans lesquels il a discuté. Alléluia. Aujourd'hui, certains voudraient être seulement des prédicateurs dans des stades pleins, pour des foules à craquer. Mais combien veulent bien aller chez les gens pour les aider dans leurs vrais problèmes. Jésus prêchait aux foules, mais chacun avait de l'importance à ses yeux. Et il prenait le temps de discuter. C'est important. On ne va pas tout comprendre seulement dans des prédications. On ne va pas tout comprendre en lisant soi-même la parole. On va aussi comprendre dans certaines discussions fraternelles, salutaires. Amen. Jésus fait réfléchir. Il fait réfléchir la Samaritaine. Il ne lui dit pas tout de suite. C'est pas tout cru. C'est par étapes. Quelle sagesse dans la façon dont Jésus amène la Samaritaine à la vérité. Et il lui parle d'abord, il dit, mais si tu savais l'eau que j'avais pour toi, l'eau vive. Il intrigue. Et de l'eau vive, mais c'est un puits, c'est de l'eau stagnante et il est profond, mais c'est de quoi tu parles? Il intrigue. Et pas à pas, il mène la discussion pour favoriser la réflexion de cette femme. Ayons une foi réfléchie. Ayons une foi qui, pas à pas, va s'étoffer, se fortifier en comprenant les choses de Dieu. La Samaritaine a compris petit à petit les choses de Dieu, les choses de Jésus-Christ. Et ensuite, elle a pu parler. C'est important d'avoir une compréhension personnelle. Vous vous souvenez du ministre de l'eunuque éthiopien? Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Alors voilà ce qu'il va répondre. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais là, il y a une suite. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est un ministre. Mais c'est quelqu'un d'humble quand même. Vous ne trouvez pas? C'est un ministre. Un inconnu arrive comme ça, en plus, par l'Esprit de Dieu, c'est en plein désert. Tu comprends ce que tu lis? Je suis ministre, hein. Quand même. Mais je ne peux pas s'il n'y a personne qui m'aide. Viens t'asseoir à côté de moi. Quelle belle disposition. Amen. Parfois, la parole de Dieu nous montre des gens qui sont assez inattendus. Les eunuques, c'est quand même des personnes, certaines, ils avaient des hauts rangs, mais en même temps, ils étaient humiliés dans leur corps. La Samaritaine, c'était justement une Samaritaine, et qui n'avait pas une très belle vie non plus. Mais des personnages étrangers nous donnent parfois la leçon de la façon dont ils vont avoir l'humilité pour recevoir la vérité. Alléluia. Et je crois que nous avons bien besoin d'avoir cette réaction de la Samaritaine et de l'eunuque éthiopien. Jésus veut nous parler, je crois. Jésus veut nous expliquer, veut nous approfondir notre foi. Mais il faudrait que nous puissions avoir ces dispositions. Alors, Jésus discute, certes, mais je dis aussi, Jésus dit la vérité. Jésus dit la vérité. Nous pensons parfois que pour que les gens soient sauvés, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas les faire fuir. Faire attention. Jésus fait attention. Mais il va au fond des choses quand même. Il dit, va chercher ton mari. Aïe. Ça coince. Le Seigneur commence à mettre le doigt sur la vérité de sa situation. Eh oui. C'est un entretien bienveillant, mais non superficiel. Amen. Nous devons être bienveillants, mais nous devons avoir du sel en nous-mêmes. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité. Je trouve que cela résume bien cet entretien. La grâce et la vérité. Gloire à Dieu. D'ailleurs, on peut se demander ce que veut dire ce verset. Quand c'est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ, on pourrait dire, alors Moïse n'est pas venu apporter la vérité. Puisque Moïse est venu apporter la loi, mais Jésus, la vérité. Eh bien, je crois que la vérité était encore bien voilée, comme elle est encore pour tous ceux qui lisent avec le cœur incrédule. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il est venu nous dire ce que la loi ne nous a donné qu'en nombre. La vérité est un besoin. La vérité est une nécessité. C'est le cœur de mon message de ce matin, la vérité. La vérité, c'est un besoin, c'est une nécessité. L'acceptation de la vérité est à la base de toute vraie conversion. Amen. Si on se convertit sur une autre base que la vérité, ce n'est pas une véritable conversion et ça ne durera pas. Quand on s'est converti, le Seigneur nous a dit ce qui n'allait pas dans nos vies. Parfois même, heureusement, dans l'Église, des frères, des sœurs ont été courageux pour nous faire certaines remarques. Et c'est cette vérité qui nous a sauvés. Dieu soit béni. Oui, la vérité est un besoin, elle est une nécessité. Vous vous rappelez de la paix superficielle des faux prophètes dénoncés par Jérémie ? Leur message était standardisé, répétitif, paix, paix, disent-ils. Alors que le malheur allait bientôt arriver, Jérémie ne s'était pas trompé. Du son vivant, les Babyloniens vont raser Jérusalem. Et Jérusalem le disait, ça va arriver. Et Jérémie a ce courage, c'est magnifique le livre de Jérémie. C'est un homme à la fois courageux et à la fois démoli. Parce qu'il dit ce qu'il aime tellement la vérité qu'il l'a dit, mais après, il encaisse difficilement l'opposition et la déception de voir qu'il manque de réaction dans le peuple. Mais il l'avait prévenu, le peuple. Cette Jérusalem va être détruite. Et c'est effectivement arrivé. Les faux prophètes vont aller dans le sens du poil. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur seront agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs. Ce texte, c'est pas pour les gens du dehors. C'est pour l'Église, c'est pour nous. Nous pouvons attraper une maladie d'oreille. La démangeaison de n'entendre que ce qui nous plaît. Mais si nous n'entendons que ce qui nous plaît, est-ce que vraiment cela va nous sauver ? La paix superficielle des prophètes, une traduction dit au lieu « paix, paix », dit « tout va bien, tout va bien », alors que rien ne va. Avant d'aller bien, il faut parfois savoir que l'on va mal. Amen. Et le plus difficile des fois, c'est pas de prendre un remède, mais c'est d'accepter le diagnostic. Que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur droit pour encore entendre la vérité. Allons faire un détour dans l'épître aux Éphésiens, s'il vous plaît, au chapitre 4, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Vous savez, la Samaritaine a dû entendre des choses difficiles. Ça a commencé par sa situation familiale. Va chercher ton mari. Ben, j'en ai pas. Ben oui, t'en as eu cinq. Et le sixième, c'est même pas ton mari. Mais le Seigneur continue. Elle dit, mais vous vous dites, c'est sur cette montagne. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous connaissez pas. C'est dur à entendre quand même. Et il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous, les Samaritains, vous vous trompez. Votre religion est fausse. Vous adorez sans comprendre ce que c'est. Oh, faut le recevoir ça quand même. Hein. Et même quand après, c'est à elle qu'il lui dit, le salut vient des Juifs. Mais il dit ça à une ennemie des Juifs. Le salut vient des Juifs. Alors, ça lui vient des Juifs, dans le sens, c'est pas les Juifs qui sauvent le monde, hein. C'est, il vient des Juifs parce que Jésus est Juif. Il est venu d'Israël pour nous sauver. Et Abraham, dès le départ, a été choisi pour la bénédiction du monde entier. Voilà. Mais, c'était des vérités difficiles à entendre pour la Samaritaine. Une vérité personnelle et une vérité religieuse, théologique, fondamentale. Très difficile à entendre. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. L'Écriture nous demande, je dis que c'est une nécessité pour grandir. Il faut professer la vérité dans l'amour. Amen. Si nous voulons grandir, et pas grossir, mais si nous voulons grandir, il faut qu'on entende encore la vérité dans l'amour. Amen. Vérité dans l'amour, c'est-à-dire, ce message ce matin n'est pas un appel à dire tout ce que vous pensez à tout le monde sans en mesurer les conséquences, ni en réfléchir quel est le but premier de vos propos. Nous voulons être vrais pour sauver les autres. Nous voulons être vrais dans l'unité de l'Église. Amen. Jésus a dit la vérité à la Samaritaine parce que cette vérité était nécessaire pour qu'elle soit sauvée. Nous ne voulons pas être vrais pour dire tout ce qu'on pense. Parce que ça, c'est charnel. Mais l'Écriture nous parle de professer la vérité dans l'amour. Amen. Dans un but bienveillant. Et certainement en s'y prenant le plus doucement possible. Versets 24 et 25 de ce même chapitre, il est dit qu'il nous faut revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi ? Qu'est-ce qui rend possible l'homme nouveau ? Qu'est-ce qui rend possible la justice et la sainteté ? Que produit ? La vérité. Amen. Vous voyez ce que ça produit, la vérité, quand même. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice sans acceptation de la vérité. L'homme nouveau, ce n'est pas l'homme libéré, c'est l'homme soumis à la vérité. Amen. Parce que le nouvel homme se soumettra à la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est valable, ça c'est un temps qui est employé continuel. C'est-à-dire, tout au long de notre vie chrétienne, c'est vrai ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, tout au long de votre vie chrétienne, vous affranchira de vos faux raisonnements, de vos erreurs, dans toutes sortes de choses, de domaines, sur la Bible, bien sûr, l'Église, bien sûr, nos conceptions personnelles, sur la vie chrétienne, mais aussi dans la famille, ce qu'on pense sur les gens. Il y a tellement, tellement, c'est très vaste, cette vérité que nous allons connaître et qui nous affranchira de tous nos mauvais raisonnements. Amen. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. J'aimerais maintenant m'arrêter quelques instants assez courtement sur la bonne réaction de la Samaritaine. On dit que la vérité est dure à entendre. Je vais vous poser une question désagréable. Êtes-vous susceptible? Alors, voilà, c'est une question qui nous gêne en général. On est gêné parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. Alors certains vont dire, je ne suis pas trop susceptible par rapport aux autres. Je crois qu'on a tous de la susceptibilité. C'est la chair qui réagit. On n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Nous, les maris, les époux, quand notre femme nous fait des reproches, c'est désagréable. Quand il est écrit que la volonté est bonne, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, ça veut dire qu'elle est vraiment bonne, agréable et parfaite, mais ça ne veut pas dire qu'elle nous semblera bonne, agréable et parfaite. Bien sûr, nous préférons la flatterie. Nous aimons quand on dit du bien de nous. Bon, Jésus a dit « Malheur à vous quand on ne dira que du bien de vous ». Hommes, femmes, vieux, jeunes, la vérité est dure à entendre. Nous aimons beaucoup la vérité pour les autres. Nous aimons beaucoup la vérité de la parole de Dieu. Parce que, voilà, on n'y est peut-être pas trop concerné. Par contre, quand même, sur la parole de Dieu, on entend autre chose que ce qu'on a compris de la parole de Dieu. C'est déjà plus difficile à entendre. Dès que la vérité nous touche, nous ne réagissons pas toujours bien. Certains réagissent mal. d'une façon évidente.
Oh !
D'autres savent très bien mal réagir. Mais vous vous rappelez de cette parabole des deux fils. Un père demande à son fils, tu veux bien ? Non, je veux pas. Bon. Et alors, tu veux bien ? Mais oui, mais oui. Mais en fait, c'est celui qui a dit non, je veux pas, qui va le faire. Et après, le Seigneur dit tout simplement, lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ben, c'est celui qui a mal réagi. Parfois, vous pouvez mal réagir, mais c'est peut-être parce que ça a touché, justement. La vérité vous a touché. Dieu soit béni. Pas pour votre mauvaise réaction, mais pour votre cœur qui a entendu la vérité. Et il faut que nous apprenions, même après nos mauvaises réactions, à se soumettre à la vérité. Et dire, bon, j'ai mal réagi, mais au fond, je le sais, c'est vrai. Je sentais que le Seigneur me le disait depuis un moment et ben, je ne voulais pas trop entendre. Et là, il faut que j'accepte. Amen. Tout simplement. Seule la vérité va nous satisfaire. C'est ce que Jésus dit. Il dit, cette eau, tu peux en boire autant que t'en veux. Tu auras toujours soif. Mais l'eau vive que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez, quand l'eau vive du salut, de la vérité, l'eau vive de la vérité qui sauve, c'est cette eau-là qui va nous épancher notre soif. Amen. Tout ce qu'on va entendre, qui nous fera plaisir, mais qui ne sera pas tout à fait la vérité, ça va nous laisser sur notre faim, sur notre soif. Amen. C'est vraiment le cœur de notre conversion. Pourquoi on s'est converti ? Parce que pour la première fois de notre vie, on a entendu la vérité et on s'est repenti devant cette vérité. On a cru au Seigneur. On a compris que c'était lui la vérité et que nous trompions. Et là, quel bonheur ! Alléluia ! Je vous lis un proverbe. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Amen. Nous acceptons que Dieu parle, ça oui. Nous avons du mal à accepter que les autres nous parlent. Mais vous savez, le problème, c'est que quand on dit « le Seigneur me parle, le Seigneur me dit », excusez-moi, ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais quand vous dites « moi, le Seigneur me parle », mais qu'autour de vous, la majorité des chrétiens ont un avis contraire. Alors, où est la vérité ? Où est la vérité ? Dans votre expérience personnelle, est-ce que parfois nous n'utilisons pas le nom de Dieu en vain ? Parce que ce commandement, c'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les musulmans qui jurent au nom de Dieu pour un oui et pour un non. Mais ça nous concerne, nous aussi chrétiens, qui parfois disons le Seigneur un peu trop vite, quand ce n'est pas forcément le Seigneur. Et il faut parfois être vrai et de dire des fois, j'aimerais faire ça, mais pas dire, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça, mais j'aimerais faire ça. Et si autour de vous, on critique vos choix, peut-être que c'est d'être sur la voie de la vie que d'écouter. Mais c'est très dur. Quand on a fait déjà son choix et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, c'est, je pense, impossible d'écouter, sauf si le Seigneur agit dans notre cœur. Alléluia. Oui, aimer la vérité qui n'est pas seulement de la bouche de Dieu, mais qui se trouve aussi dans l'Église. En conclusion, je reviendrai sur le verset 23 de ce chapitre, où il est dit que les vrais adorateurs adoreront le Père, peut-être plutôt par le Saint-Esprit, et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, que nous adorons le Père par l'Esprit et en vérité? Bien, ça veut dire que nous, nous savons de quoi nous parlons. Les Samaritains avaient imité le culte des Juifs, ils adoraient l'Éternel, mais ils ne le connaissaient pas. Nous, nous avons la grâce de rendre un culte parce que nous avons eu une révélation du Seigneur. Nous sommes nés de nouveau et par l'Esprit, nous connaissons les choses de Dieu. En fait, celui qui croit en Jésus-Christ a le Père. Il connaît le Père. Alléluia. Qui a le Fils connaît le Père, a le Père. C'est une grâce de Dieu. Ce matin, nous adorons Dieu par l'Esprit et en vérité, parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Souvent, on a utilisé ce passage pour dire adorer Dieu par l'Esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait un bon témoignage quand on rend un culte à Dieu. Ça, c'est en vérité. C'est pas ça que ça veut dire avant tout. Dans le texte, en vérité, ça veut dire que ça sera un culte nouveau, ni à Jérusalem, ni dans la montagne de Samarie, mais le culte nouveau de la nouvelle alliance en connaissant vraiment Dieu par Jésus-Christ. C'est ça un culte en vérité. Alléluia. Et nous vivons ce culte en vérité. Ce qui ne veut pas forcément contredire le fait que nous avons aussi à avoir une vie vraie quand nous adorons Dieu. Alors c'est quand même une grâce que nous connaissions la vérité. C'est vrai que nous sommes appelés à toujours la recevoir pour toujours être délivrés, sanctifiés, mais nous l'avons quand même déjà. Qui a le Christ a la vérité. Et je termine avec le verset 25 où la Samaritaine dit « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Amen. Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur ce verset. « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus a à nous dire toutes choses. Amen. Beaucoup de choses dans notre vie. Il nous annoncera toutes choses. C'est annoncé par lui, les apôtres, le Nouveau Testament, par le ministère du Saint-Esprit, qui continue à nous dire la vérité. Je crois, bien-aimé, qu'il ne suffit pas de dire « Je crois aux 12 vérités fondamentales des assemblées de Dieu » pour avoir fait le tour de la vérité. On est loin du compte. On peut avoir une confession de foi, ça ne limite pas tout ce que nous avons encore à découvrir de la vérité dans notre communion avec Jésus-Christ. Amen. Quand je me suis converti, ma mère m'a dit, ça sera comme tout le reste, ça va durer 6 mois. Parce qu'effectivement, je faisais plein de choses, mais pas longtemps. Mais savez-vous pourquoi ça n'a pas duré 6 mois? C'est parce qu'en Jésus-Christ, c'est toujours nouveau. En Jésus-Christ, on peut toujours progresser. En Jésus-Christ, la vérité est infinie. Alléluia! Si seulement nous voulons bien accepter cette vérité, comme au premier jour, pour qu'elle atteigne son but. Amen! Alors, peut-être vous revenez à l'Église. Tant mieux, que Dieu vous bénisse. Mais il faut que tous ceux qui viennent à l'Église viennent avec cette soif de vérité. La Samaritaine avait soif. Amen. Si nous n'avons pas soif de vérité, nous n'irons pas très loin. Que Dieu nous bénisse ensemble dans son amour et sa vérité. Amen. On va chanter avec notre frère qui nous introduira pour la scène de cette façon-là.